RCF. L'évangile de la semaine dernière relatait le baptême de Jésus dans le Jourdain, ce moment où l'Esprit-Saint descend sur le Fils bien-aimé. Cet épisode ouvre l'existence de Jésus à sa dimension publique, lui qui a passé 30 ans de vie caché à Nazareth. Cette semaine, nous retrouvons Jésus à un mariage dans le village de Cana. C'est l'évangéliste Jean qui raconte cette scène dans laquelle, pour la première fois, le Fils de Dieu se jette à l'eau pour une histoire de vin. Les mariés ayant frôlé la catastrophe à cause d'une pénurie de bouteilles. Pour commenter ce passage d'évangile, je reçois la théologienne Sylvaine Landrivon. Bonjour.
Bonjour.
Nous écoutons le texte, c'est dans Jean, chapitre 2, versets 1 à 11.
Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres ». Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas ». Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Sylvaine Landrivon, nous avons écouté cette page d'évangile de Jean qui marque le début de la vie publique de Jésus. Alors, revenons sur cet évangile de Jean spécifique. Il ne ressemble pas aux autres. Quelle est la caractéristique de cet évangile?
Alors, il y a plusieurs caractéristiques. Déjà, saint Augustin disait que c'était un évangile à part et il est différent. Donc, il faut faire très attention dans son approche parce qu'il est différent sur 2 plans, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est un évangile qui est plus tardif que les 3 synoptiques, qui est composé à la fois de gens qui se sont rapprochés de Jean le Baptiste, qui se sont opposés au temple, et puis surtout, il y a des convertis.
Donc c'est après la résurrection que cet évangile a été
réalisé.
Oui,
à la fin du 1er siècle, c'est longtemps, en plusieurs couches rédactionnelles. C'est pas un individu qui a écrit une bonne nouvelle.
Oui, on parle d'école joannique.
Voilà, tout à fait. Et il est déjà beaucoup plus universel que les autres puisqu'il s'adresse à d'autres et on considère a priori comme acquis ce qui est dedans. Mais il y a plus au niveau de la forme. C'est que ce texte est énormément travaillé. Il va se servir de double sens, de jeu de mots, de symboles où tout va être à interpréter. Donc on ne peut pas lire absolument un texte de l'évangile de Jean comme si c'était une anecdote et qu'on la prenne au premier degré.
Oui, donc il y a de la symbolique, hein. Il y a un double sens.
En permanence, et des allusions et des références, y compris d'ailleurs avec les disciples. Quelquefois, ils ne comprennent pas vraiment ce que dit Jésus quand il leur parle du temple qui sera reconstruit en 3 jours. On sent que là, ils sont au bord, il y a un risque de malentendu. Mais c'est pédagogique, c'est pour montrer qu'il faut aller au-delà dans l'enseignement de la foi.
Donc quand on écoute ce texte au temple ou à l'église, il faut bien avoir en tête que ça n'est pas un récit comme on raconte une histoire, on décrit une scène.
Tout à fait.
C'est une interprétation.
Absolument. Parce qu'on pourrait le lire comme dans Merlin l'Enchanteur qui fait un exploit extraordinaire, puisque là on va tout d'un coup apporter de la joie à tout le monde en apportant du vin. Il y a cette notion de joie au premier degré. Mais avec Jean, il faut tout de suite aller au-delà parce que sur le fond, il y a énormément de choses à apprendre. C'est un cours de christologie. Il va nous dire la double nature du Christ, qui est à la fois Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, il va nous montrer comment on met en lien la première alliance avec la nouvelle alliance. Et ça, on va le trouver dans tous les passages.
C'est pour ça qu'on parle de signe et pas de miracle.
Absolument.
Hein, parce que le signe, ça signifie quelque chose d'autre.
Exactement. Dans les trois synoptiques, on parle de miracle et le mot grec est dynamis, c'est-à-dire un acte de puissance, un acte d'autorité. Dans l'évangile de Jean, ce n'est pas ça qui est mis en premier, ça va être l'amour, ça va être le service. Et donc il va parler de signe, le mot grec c'est séméion, pour justement montrer que Jésus se donne et que sa messianité ne va pas être celle d'un type royal tel qu'on l'attendait, que les Juifs l'attendaient.
Surpuissant.
Voilà, il va subvertir cette messianité pour se faire serviteur. Et quand il sera élevé, son trône ce sera la croix en Jean 19.
Sylvaine Landrivon, regardons avec vous le texte de près. Jean nous dit, le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Donc on a les protagonistes, les trois. C'est Marie, visiblement, qui a été invitée, parce que Jésus est cité après.
Absolument. D'abord, Jésus n'a pas le premier rôle, mais alors on commence tout de suite dans la symbolique avec le troisième jour.
Ah.
Ce troisième jour, il fait signe, déjà, vers le Premier Testament. Parce que si on regarde en Exode 19, on s'aperçoit que c'est un troisième jour que Dieu va se donner à voir au peuple. Et là, ce troisième jour, c'est là que Jésus va révéler qu'il est le Christ. Première chose. Et on va retrouver un troisième jour au bout de l'évangile de Jean.
La résurrection.
Au moment de la résurrection. Donc déjà, il nous dit attention, ça n'est pas n'importe quand. Bien sûr, c'est le troisième jour après le baptême. Mais on peut déjà garder dans un coin de l'esprit que c'est un troisième jour qui renvoie ailleurs. Ensuite, ce sont des noces.
Alors, le mariage, justement, c'est une symbolique très forte dans la Bible, hein, généralement, les noces.
Bien sûr, puisque...
Ça veut dire quoi ?
Au niveau anthropologique, il y a déjà la fête, la joie. Mais il y a aussi l'alliance.
L'alliance de Dieu avec le peuple ?
L'alliance de Dieu avec son peuple. Et Jésus va venir renouveler cette alliance. Il ne va pas abolir. Et là, on le verra tout le long. Le Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Jean va développer tout ça.
Alors, il y a la mère de Jésus qui est là.
Elle est là, mais simplement présente. On va la voir évoluer, sa présence.
Et puis, les disciples qui ont suivi Jésus, hein, c'est au début de l'évangile de Jean, et qui sont là.
Bien sûr. Donc, on a Marie qui... Alors, comme on le sait, l'évangile de Jean ne commence pas par l'Annonciation. On découvre la mère de Jésus à ce moment-là. Mais on peut supposer que tout le monde sait qui est la mère de Jésus. Donc, Marie est présente. Pour l'instant, on nous dit qu'elle était là et que c'est par lui que Jésus est invité à la noce. Comme c'est par lui qu'il rentre dans le monde, quelque part. Donc, elle a une position particulière. Et là, elle est là et elle précède la révélation. Ensuite, on va avoir les disciples qui sont là. Et on verra qu'on va repérer dans ce texte différentes formes de charisme, que ce soit celui de Marie, celui des disciples, celui qui sert, les gens qui servent, et le maître du repas. Et on verra ce que veulent dire ces différents plans au fur et à mesure du récit, parce que c'est extraordinaire de voir comme Jésus, y compris dans les charismes, renverse les rôles.
Sylvaine Landrivon, nous regardons avec vous l'évangile des noces de Cana. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Une fois la scène campée, Jean nous dit qu'on manqua de vin.
Est-ce que je peux revenir un petit peu parce qu'il est précisé dès le début et à la fin que ces noces ont lieu à Cana, en Galilée. Ce n'est peut-être pas innocent. Parce qu'on pourrait supposer que si Jésus fait son premier signe, son premier miracle, il pourrait le faire au temple à Jérusalem et se faire valoir. Or, il est dans une toute petite ville.
Toute bourgade petite.
Non seulement petite, mais en plus avec une population mêlée, très mal vue des Judéens. C'est un peu comme si, au lieu d'aller à Paris faire un spectacle, il allait dans la banlieue, dans le 9-3, ou à Lyon, à Vaux-en-Velin. Et je pense que ce n'est pas inintéressant pour la façon dont Jésus va entrer dans le monde et se présenter.
Alors, on manque de vin. Le vin symbolique très fort dans la Bible, là encore.
Bien sûr, puisqu'il est depuis Noé signe de vie, de bénédiction. Pensons en Genèse 27, à la façon dont Isaac donne sa bénédiction avec du vin. Et puis, à l'autre bout, il évoque la scène et le sang du Christ. Et alors, le texte nous dit qu'il n'y avait plus de vin. Le vin était épuisé. ils n'ont pas de vin. C'est-à-dire que c'est un manque terrible. Jean a l'air de nous dire que c'est très grave. Normalement, on se dit, bon, il n'y a plus de vin à la fin d'une fête, c'est quand même pas dramatique. Eh bien si, cela, ça a l'air d'être compliqué.
Et la mère de Jésus intervient, puisqu'elle dit, ils n'ont pas de vin.
Voilà, on avait vu qu'elle était là, elle était présente, et là, elle prend la parole. Donc Marie va être la première à parler au nom du Christ et va intervenir pour l'interpeller.
Et on peut dire qu'elle fait partie des disciples dans ces cas-là ?
Non seulement qu'elle fait partie des disciples, mais elle sera la première disciple, puisque c'est la première qui va interpeller Jésus en tant que Christ. Donc on va même pouvoir voir au fil du récit que non seulement elle est disciple, mais elle va être avec le disciple bien-aimé, la disciple parfaite, au point qu'il va falloir rétrograder dans son rôle pour montrer, il va l'appeler femme plus loin.
Ah oui, alors cette réponse quand même, femme, que me veux-tu ? On est choqué quand on l'entend un peu.
Non.
Mais à la première écoute, on peut se dire, mais on parle pas comme ça.
Saint-Irénée aussi a cru que c'était une façon d'interpeller sa mère un peu violente. Absolument pas, il n'y a rien de péjoratif dans le texte grec.
Alors ça veut dire quoi ?
Mais ça veut dire surtout qu'ils ne sont pas sur le même rapport. Lui, il sait quel va être le prix du don qu'il va donner. Il le dit après, mon heure n'est pas encore arrivée. Et voilà que quelqu'un qui sait qu'il est, qui a une foi totale, lui demande d'intervenir avant même qu'il soit prêt. Alors, il reconnaît en elle la disciple, mais il la met un petit peu à distance en disant, tout le monde n'a pas cette relation à moi, donc femme, que me veux-tu ? Et ça nous renvoie là aussi à une autre personne à qui il a dit, femme, que cherches-tu ?
Marie de
C'est
Magdala.
À Marie de Magdala, au moment où, pareil, Marie de Magdala va être face à un manque épouvantable. Ce n'est plus du vin qui manque, c'est le corps de Jésus qui n'est plus. Et dans les deux cas, il s'adresse à une disciple qui est en totale confiance, qui croit totalement, et il lui dit « Femme, que me veux-tu ? Femme, que cherches-tu ? » Parce que ces deux sont en quête du Seigneur, et elles vont le trouver d'ailleurs.
RCF. Enfin une bonne nouvelle. Sylvaine Landrivon, nous continuons à regarder les noces de Cana dans Jean, évangile de ce dimanche. La mère de Jésus dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il dit, faites-le. Comment comprendre cette parole de Marie ?
On l'a vue présente, on l'a vue parler, et là, dans le faire, elle va intervenir en poussant les gens à commettre une action. Ce faire, il existe aussi dans le Premier Testament. Parce que d'abord, c'était le fer de Dieu dans la création. Et après Babel, le peuple, par exemple en Exode 24, va reprendre à son compte le « Naasé, nous ferons » pour réaliser les commandements de Dieu. On est exactement dans la même posture. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sa mère dit aux autres, et qui du coup devient vraiment disciple, on la retrouve à deux endroits seulement dans l'évangile de Jean. Dans les noces de Cana, en Jean 19, pied de la croix.
La croix.
À la croix. C'est-à-dire que là, il y a un premier geste de glorification. Il va se révéler. Et la glorification totale, ce sera en étant élevé à la croix. Donc Marie, elle ne dit pas, justement, faites ce que Jésus, faites ce que mon fils. Elle dit ce qu'il vous dira. C'est un prénom personnel qui n'engage pas le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, on ne le nomme jamais. Donc il y a déjà dans ce « il » toute la certitude de foi qu'elle a que Jésus est le Christ.
L'évangéliste Jean poursuit son récit en disant « Il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. » C'est donc de l'eau qui servait pour les ablutions ?
Oui, c'est-à-dire que la purification, toute la ritualisation qu'il y avait dans la religion juive, Jésus vient la récapituler et l'accomplir autrement. On n'aura plus besoin d'eau de purification. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que 6 jarres de 100 litres chacune, qu'il faut remplir à ras-bord.
C'est énorme.
C'est tellement énorme que on se dit là, il attire notre attention, c'est démesuré.
C'est l'abondance.
C'est la surabondance, c'est la joie absolue pour tout le monde. On universalise la fête. Il y en aura plus qu'il ne faut. Et 6, pourquoi 6 ? Parce qu'il pourrait y avoir 4 jarres, ça suffisait. Mais 6, c'est très symbolique aussi, ce sont les 6 jours de la création que le Christ vient réorienter, récapituler. Parce que l'objectif, c'est quand même notre salut. Cette surabondance de joie, c'est quand même pour notre salut.
Le salut étant le fait que Dieu se donne complètement en Jésus.
Se donne à nous pour,
gratuitement.
Jésus, gratuitement, pour nous sauver et nous... Saint Irénée dirait pour nous diviniser.
Oui, parce que sauver, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il nous conduit au Père. Ça veut dire qu'on est capable de croissance. On est des hommes et des femmes sur Terre. Mais on peut, puisqu'on est créé à l'image de Dieu, on peut retourner vers le Père par la verticalité, se relever et à l'exemple du Christ qui est venu nous racheter et nous sauver et mourir pour nous, être guéri.
Sylvaine Landrivon, continuons. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, ils les remplirent jusqu'au bord, et il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas, et ils les portèrent.
Alors déjà, on a le symbole de l'eau, qu'il ne faut pas laisser passer, parce que Jésus n'avait pas besoin de support. À la limite, les jarres, elles pouvaient être vides, il aurait fait du vin de la même façon. Mais dans l'évangile de Jean, on rencontre l'eau à des endroits bien particuliers, au moment du baptême. Quand il parle de l'eau dont il faut naître, de l'eau vive, du lavement des pieds et de l'eau qui va s'écouler du côté de Jésus en croix. Chaque fois, cette eau nous signale la présence de l'Esprit et nous fait signe vers la promesse.
Alors donc,
on repère à des moments importants que l'Esprit est présent, que Jésus est le Christ et qu'il nous envoie son Esprit par ces références-là. Et alors là, on va voir apparaître différents intervenants venant d'horizons divers et qui vont nous montrer, comme ce qu'explique Paul en 1 Corinthiens, qu'il y a différents charismes. Sauf qu'avec le Christ, les charismes sont changés.
Les charismes, c'est quoi ?
C'est les capacités qu'ont chaque humain à développer des possibilités de témoignages différentes. Là, on nous présente un maître du repas qui est quand même un peu têtu. Parce qu'il a le pouvoir, et d'ailleurs Jésus dit d'aller lui présenter à lui, donc c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, sauf qu'aussitôt le texte nous dit que le maître du repas ne savait pas d'où venait le vin délicieux. Ce qui ne va pas l'empêcher de donner une leçon au marié en disant « Comment ça ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Donc la personne qui a l'autorité, quelque part, perd de sa crédibilité. Peut-être qu'il y a une allusion aux prêtres du temple, à nous, pour aujourd'hui, de voir à quoi ça renvoie. Ensuite, il y a ceux qui servaient. Eux, ils n'ont pas la compréhension du message. Donc, ils voient d'où venait l'eau, mais ils ne savent pas pourquoi.
Il y a une énorme discrétion, en fait, dans ce signe.
Énorme. Tout est dit, et tout est dit en murmure. En revanche, les disciples, on verra qu'après, eux, ils ont compris ce qu'avait fait Jésus. Et ils vont croire. Et puis il y a Marie. Marie, elle est dans une autre posture parce qu'elle, depuis le début, elle sait, elle a vu, elle a dit, elle a fait, et ce sera le modèle. Mais un modèle tellement extraordinaire qu'il est inatteignable, comme le bien-aimé. Alors il faut nous mettre un palier, c'est pour ça qu'on avait femme, pour être une disciple excellente.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Sylvaine Landrivon, le vin arrive, c'est un vin excellent et c'est ce que dit justement le maître de la noce au marié. Le marié, lui, on a l'impression qu'il voit, enfin il est en dehors de tout ça, il
Alors,
constate simplement.
C'est la question, qui est ce marié ? Parce que ce n'est pas Jésus puisque Jésus est présent. Ce n'est pas un marié par hasard. Sauf que le marié, ça fait penser aux noces, aux épousailles. Et alors là, on sait qui c'est. Parce que depuis Isaïe, depuis Samuel, c'est Dieu le marié.
Et donc c'est Dieu qui se marie avec nous ?
C'est Dieu qui épouse son peuple. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans Isaïe, Dieu, il épousait Jérusalem. Là, les noces, elles ont lieu à Cana. Et Jésus, il part dans une discrétion totale pour épouser et pour se donner au monde entier.
Oui, parce que vous disiez que ce n'était pas à Jérusalem, c'était dans une bourgade perdue.
Et oui.
Et donc c'est très fort.
Dans la discrétion, il a subverti complètement cette messianité qui était attendue des Juifs, parce qu'il se donne à tous.
Alors, ça va très vite. On nous dit que les disciples vont croire, mais on ne nous dit pas que les autres croiront. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ?
Ça nous donne une nouvelle extraordinaire. C'est que Jésus se dévoile, mais qu'il se laisse approcher dans la liberté de chacun. Chacun chemine à son rythme et sera accueilli pareil.
Autrement dit, ce qu'on pourrait appeler, on croit appeler le miracle éclatant qui va faire que tout le monde va croire, c'est pas du tout ça qui est raconté.
Non, parce que sinon ça nous priverait complètement de notre liberté de croire. Jésus se donne et se donne totalement. En revanche, nous l'accueillons à notre rythme. Tout le monde sera sauvé, mais chacun chemine selon son propre rythme. Donc Marie, elle n'a pas besoin de cheminer, elle sait. Les disciples, dans toute la fragilité de la foi que l'on connaît, croient, mais il leur faudra bien plus encore, et il leur faudra la résurrection, et il faudra qu'une femme vienne les secouer pour qu'ils continuent à croire. Et puis les serviteurs un jour comprendront ce qu'ils ont vu et croiront, et même il faut espérer que le maître du repas finisse par comprendre aussi. Ça, c'est une extraordinaire nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, le fait que le Dieu de l'Évangile, révélé par Jésus-Christ, respecte le cheminement de chaque être humain.
Ah, je pense.
Oui. Jamais d'imposition.
Personne n'est exclu et chacun a droit à sa liberté de l'approcher. Je trouve que c'est une leçon de... Il n'y a pas plus grand amour que de laisser venir les gens à leur rythme, comme ils veulent, quand ils seront prêts.
Une question sur la gloire, parce que la fin du texte, c'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire.
Oui.
Et qu'est-ce que ça veut dire la gloire ?
Ça veut dire qu'il va se révéler en plénitude, mais il commence à dire qu'il n'est non seulement totalement homme, mais qu'il est totalement Dieu. Et il nous renvoie avec ça en Jean 20, où là il va être élevé sur un trône qui est un trône terrible, puisque ce sera celui de la croix.
Donc c'est une gloire souterraine, une gloire qui n'a pas
de brillant. Qui va briller, mais qui va briller d'une autre manière que celle attendue. Ce n'est pas un roi couronné, ce n'est pas Salomon, par exemple, avec toute sa cour et tout. Non, sa gloire, c'est un don d'amour pour l'humanité qu'il vient sauver.
Et on voit déjà dans ce texte de Cana une gloire qui est caché, qui affleure, mais qui ne s'impose pas.
Et qui pourtant déjà donne la joie. Ce qu'il a enseigné, c'est votre slogan, c'est-à-dire la joie se partage, la joie se donne, le vin à profusion, dans une surabondance complète. C'est ça, le premier signe de la gloire de Jésus. Il donne de la joie au monde à partir du moment où l'humain veut le recevoir. Il n'y a pas d'urgence. Jésus l'a le temps. En tant que Christ, on le rejoindra quand on sera prêt pour une joie éternelle. Tout le monde doit être sauvé. Tout le monde doit parvenir à traverser la mort et la résurrection.
Pour terminer, vous vouliez insister sur le fait que ce texte, on peut le rapprocher du matin de Pâques.
Tout à fait. Ce que je trouve très beau chez Jean, c'est la place qu'il accorde aux femmes. Donc c'est une ecclésiologie totalement nouvelle qui a été peu dévoilée. Parce que le premier des disciples, ici, c'est Marie. Et tous les passages du texte nous envoient vers ce que fera Marie de Magdala au matin de Pâques. Les textes sont les mêmes, les interpellations sont les mêmes. Il y a un manque des deux côtés, il y a un amour absolu des deux côtés. Et là où Marie dit « faites ce qu'il vous dira », Marie de Magdala, elle, aura vu ce dont il était capable, et ira, elle, la première, dire aux disciples, celui que vous croyez perdu, il est ressuscité, et il faut croire, ça y est, tout le monde sera sauvé.
Donc, premier apôtre, hein, envoyé
par Jésus. Romanos le Mélode, qui est un saint poète du 5e siècle, explique cela très très bien, en disant, c'est elle qui va dire aux apôtres, allez, réveillez tout le monde, allons-y. Le Seigneur est ressuscité, et il va vers son Père et pour nous accueillir, nous, vers le Père.
Merci à vous, Sylvaine Landrivon. L'évangile de ce dimanche, c'est dans Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Merci à Xavier François à la technique.
Merci beaucoup.